au FM 93. Les sports avec Ray Cloutier.
Ray, qu'est-ce qu'il y a dans le monde du sport?
Ben, le Canadien, Paul. Le Canadien, avec un changement d'entraîneur, souvent, il y a un électrochoc. Et puis, ça, peut-être qu'il va venir, cet électrochoc-là. Puis, hier, c'était peut-être short notice un peu trop, puis trop près du congédiement. Mais ça a fonctionné un peu au début. Le Canadien a pris les devants 2-0 et 3-1. Yoel Armia, entre autres. Ton ami Yoel a marqué deux buts, troisième et quatrième.
Je l'avais-tu dit?
On en parlait hier matin, voilà. Et Thomas Tatar a aussi marqué son cinquième. Donc, deux joueurs qui connaissent des saisons plus difficiles ont réussi à s'inscrire au pointage. Ouais. C'était 3-1 Montréal, mais les Jets ont réussi à créer l'égalité. Essentiellement, l'indiscipline du Canadien a permis aux Jets de revenir dans le match. Et finalement, en troisième période, bien Winnipeg a distancé le Canadien pour un gain de 6-3. Quatrième défaite de suite pour le Canadien. Quatrième défaite depuis le retour de la pause de presque une semaine complète là, pour le Canadien. Visiblement, ils ont perdu un peu de leur rythme. Même si avant la pause, déjà, ça commençait à aller moins bien. Après la semaine, on aurait été porté à croire que la semaine aurait permis de réparer les petits bobos puis corriger les petites choses, les ajustements, mais visiblement, c'est pas ce qui se passe pour le Canadien qui essaiera de se reprendre demain à Winnipeg. Les Jets sont une bonne équipe. Les Jets ont une équipe solide, surtout la ligne de centre et l'offensive. Ils ont un très bon gardien de but en Connor Hellebuck. La défensive est un peu suspecte pour les Jets, à mon avis, mais pour hier, ils ont quand même marqué 6 buts. Quand tu marques 6 buts, tu vas en gagner plus que tu vas en perdre. Et les Jets ont une excellente offensive. Entre autres, Mark Scheifele a marqué un but dans un sixième match consécutif. Bien que c'était un but dans un filet désert, ça compte. Et ça compte pareil. Josh Anderson a été blessé chez le Canadien. On en saura peut-être plus sur son état de santé aujourd'hui. Une situation qui n'a pas été punie, qui aurait dû l'être par les officiels, à mon avis. Un slow foot, là, un coup de pied à la renverse. Tu places ton pied en arrière du joueur et tu le fais basculer par derrière. C'est très dangereux, ce geste-là. Anderson a été blessé là-dessus. Il n'y a pas eu de punition d'appelé. Puis on verra donc pour la suite des choses. Dominique Ducharme n'a pas viré l'alignement à l'envers, si vous me passez l'expression. Il a quand même apporté quelques ajustements. Jake Evans ne jouait pas hier. Pourtant, Jake Evans, j'entends les analystes depuis le début de la saison, on vante beaucoup son jeu depuis le début de l'année. Puis hier, Dominique Ducharme, premier match qu'il dirige, il retranche Jake Evans de la formation. Et Tipol Biron a joué au centre hier pour la première fois de la saison. Il a déjà joué au centre et c'est un joueur assez rapide pour jouer au poste de centre. Je pense que c'est ça que voulait exploiter Dominique Ducharme avec Paul Byron comme joueur de centre.
Une petite tendance commence à se présenter, Ray.
Laquelle?
Hier, on a croisé Jonathan Trudeau dans le corridor. Une auditrice nous écrit « Je défends Carey depuis toujours, qui n'a jamais vraiment eu une bonne défense devant lui, mais là, il commence à me faire chier. je m'inclus dans cette tendance-là. Moi, je suis de ceux qui trouvaient qu'on a toujours été un peu raide avec Price dans la mesure où, bon, à un moment donné, il ne peut pas tout faire tout seul, mais sincèrement, là,
il doit être meilleur.
Mets tes culottes, buddy, là. Non, mais il n'est pas capable de... Tu sais, il n'est pas capable d'arrêter une rondelle. Il laisse passer de très mauvais buts.
Mm-hmm. Les moments également où il accorde les buts.
Sincèrement,
hier, il aurait dû protéger l'avance de 3.
Ben, qu'un... J'espère.
Surtout quand t'es le joueur de la franchise. Là, faut que tu fasses la différence à un moment donné. Ce que font des gars comme McDavid, Matthews, McKinnon, évidemment, c'est des attaquants, mais marquent les buts dans des situations importantes. Ben, quand t'es le gardien de but, t'es la face de la franchise avec le montant qu'on t'accorde. Il faut que tu fasses la différence de temps en temps. Dans un match comme hier où le Canadien a besoin d'une victoire, là, peu importe comment, le 2-1, 8-7, 13-3, le Canadien a besoin de gagner. Là. C'est ce qu'il doit faire le plus rapidement possible. Demain, il y a fort à parier que c'est Jake Allen qui va être devant le filet. Ouais, moi, si je suis Dominique Ducharme, c'est la décision que je prendrais. Il l'aurait peut-être pris hier. Il s'est probablement gardé une petite gêne parce que tu fais tes débuts avec l'organisation. Le joueur le mieux payé de la franchise, c'est Carey Price. Tu veux peut-être commencer de la bonne façon. Mais en même temps, Dominique Ducharme, il n'est pas fou à temps plein. Là. Il sait comment ça fonctionne, le hockey. Si tu prends pas les décisions puis tu continues à perdre, c'est toi qui vas perdre ta job. Oui. T'es aussi bien de prendre les décisions qui, selon toi, sont les meilleures pour te permettre de gagner. Puis dans cette logique-là, Jake Allen devrait être devant le filet demain soir contre les Jets de Winnipeg.
Question complot?
Complot.
Penses-tu que Price est tanné de Montréal, il veut s'en aller, puis il s'est dit, ben regarde, Peut-être que, si les statistiques sont assez catastrophiques, on va trouver un moyen de me sortir du site.
Il est peut-être sur question la pente
complot,
descendante.
C'est la question complot. Là.
Il est peut-être sur la pente descendante. Ça fait 14 ans qu'il joue. Là. C'est rare des grandes, qu'il y ait des longues carrières comme ça.
Non, le contrat jusqu'à 38, il faut que ce soit jusqu'à 38.
Son contrat, il va être respecté d'ailleurs. Il va toucher tous les sous de son contrat, à moins qu'il soit racheté à la dernière année. Là.
Chacune des pièces de son contrat... Oui.
Ça aussi, c'est une décision que Marc Bergevin aura à prendre et l'organisation. Si ça continue d'aller comme c'est parti pour Carey Price cette année, qu'est-ce qu'on fait au repêchage d'expansion? Il y a une possibilité de le laisser.
C'est quand déjà le repêchage d'expansion?
C'est mois de juillet.
Mois de juillet.
Ça s'en vient, oui. Pour le Kraken de Seattle.
Le Kraken.
C'est comme ça un peu que les Pingouins ont décidé de laisser partir Marc-André Fleury.
Oui.
C'est comme ça qu'il s'est ramassé à Seattle.
Flower.
Maintenant, il a une clause de non-échange, Carey Price, dans son contrat. En plus du montant lucratif, il y a une clause de non-échange. Il faudra qu'il lève cette clause-là si on veut le placer au repêchage d'expansion. Ce qui, dans ta logique à toi, que tu dis il est tanné à Montréal de perdre, puis mais si c'est le cas, il va probablement accepter de lever la clause.
Hey, mais ça, ce serait... Écoute, peut-être que je serais un très mauvais DG, mais moi, si le Kraken de Seattle veut aller chercher Carey Price au repêchage d'expansion, là, je vous rappelle qu'il gagne 10 millions par année.
Mais moi, si je suis le Kraken de Seattle, c'est quand même un nom, le Carey Price, dans la Ligue. Tu t'informes.
Ben,
je
ne
sais pas
sûr.
Si ça va venir là, mais tu t'informes.
C'est sûr.
Comment ça va, vous autres, avec Carey? As-tu des chances qu'on peut te jaser?
C'est ça. Même que tu sais, quand il y a eu le repêchage pour Vegas, là,
Vegas,
beaucoup d'équipes, parce que ce qu'il disait, il disait à Vegas, je vous donne, mettons, un deuxième choix ou un troisième choix, puis vous repêchez, vous prenez tel gars. OK?
Ça, il va peut-être y en avoir moins, Paul, parce que ça a permis à Vegas de se bâtir une...
Vegas.
D'abord une bonne équipe, mais une banque de choix également. Là, les équipes vont dire, ouais, on s'est fait faire le coup, on l'a vu ton film. Ça se peut que les équipes soient moins enclins à faire ça, mais ça existe, ça aussi. Là.
Mais même que, tu sais, si Bergevin est wise, là... Il est capable de... Ben, encore là, c'est conditionnel à la levée de la clause de non-échange de Carey. Mais si Carey lève sa chose de non-échange, là, ben Bergevin va dire, regarde, prends donc Carey, toi. Puis, si tu le veux, là, lui, il accepte de lever sa clause de non-échange. À la limite, envoie-moi un petit choix, même, peut-être.
C'est le même, ça marche.
Puis je te laisse sélectionner Carey. Fait que là, ben, tu te retrouves avec un choix supplémentaire et de l'argent d'à côté de libre, justement, salarial. Là.
C'est ça. À court terme, le Canadien, c'est sûr qu'ils doivent espérer que Carey se ressaisisse. Là.
C'est sûr.
Mais il faut que tu considères ça également dans l'équation. Hier, il y en avait 9 autres parties dans la Ligue nationale de hockey. Dans la division canadienne, il y avait 2 autres matchs. Ottawa a battu Calgary 6-1. C'est inquiétant également à Calgary. Bien que là, ils sont privés de leur gardien numéro 1, Markstrom, qui a été placé sur la liste des blessés hier. Et les Sénateurs, ben, c'est des jeunes joueurs qui sont en train de prendre confiance. Si je ne m'abuse, c'est leur 3e victoire consécutive cette semaine. Ben oui, ils ont battu le Canadien 2 fois. Donc, tu sais, des jeunes joueurs qui sont en train, ensemble, d'apprendre la Ligue nationale de hockey. Ils sont le fun à voir jouer, les Sénateurs. Il va y avoir encore des soirs difficiles. Hier, Matt Murray a été très bon devant le filet et les jeunes ont continué de produire. Batterson, 6e but. White en a 2 également hier. Brännström, il a marqué du centre de la glace. Je vous dis tout le temps, je vous suggère toujours des buts à voir ou à regarder dans vos bulletins préférés. Le but de Brännström, pour les mauvaises raisons, là, il venait de traverser la ligne rouge. Il a dit, tiens, je pourrais lancer au but. Il a envoyé ça au but et la rondelle a traversé le gardien de but, ni plus ni moins.
C'était un tir ou un tir-passe?
C'était pas un tir-passe, mais c'était pas un grand tir non plus. Ouais, c'est ça. On va l'envoyer par là, puis adviendra ce qui adviendra.
Il l'envoyait plus là pour aller chercher après que pour essayer de scorer.
Advienne que pourrira. Il a rondé l'abouti dans le filet. Ça a été la fin pour le gardien des Flammes après ça, n'est-ce pas? Et Edmonton a battu Vancouver 3-0. Oui, les Oilers ont McDavid et Draisaitl, mais ils ont présentement un gardien de but qui fait les arrêts, Mike Smith, depuis qu'il est revenu de blessure, et très, très solide devant le filet des Oilers. Voilà pourquoi ils viennent de gagner un 11e match en 13 parties. À part de ça, le Québécois Anthony Beauvillier, qui a une saison difficile, a marqué son premier but de la saison hier pour les Islanders, qui ont donné une volée aux Bruins de Boston 7-2 hier, la victoire des Insulaires. Et ben voilà, le gardien québécois Jonathan Bernier a aussi gagné hier soir avec les Red Wings de Détroit. Ce que l'on voit tranquillement, pas vite, c'est des équipes de la Ligue nationale de hockey qui vendent des billets pour que les gens puissent assister à leur match. Au mois de mars, il y a des arénas où il y aura du monde dans les gradins. Les Islanders ont annoncé ça hier. Si j'ai bien vu, les Bruins ont annoncé ça hier également. Il y a quelques endroits aux États-Unis où on réintègre les amphithéâtres. Les équipes de baseball également sont à vendre des plans pour des billets. La saison de baseball va débuter au mois d'avril. Tu sais, tranquillement, pas vite, on revient à un semblant de normal dans bien des villes américaines pour le sport. Donc ça, ça peut être encourageant également pour les prochaines semaines, prochains mois. Ligue de hockey junior majeur du Québec, les matchs en environnement protégé reprennent en fin de semaine à trois endroits, à Rimouski, à Gatineau et à Chicoutimi. Les Remparts seront du côté de Saguenay pour la prochaine semaine, 6 matchs en 9 jours à compter de demain. Les Remparts jouent deux fois en fin de semaine, samedi et dimanche, c'est à 14h contre les Saguenayens. Et hier également, déjà on avait su qu'il allait y avoir une sixième séquence de matchs en environnement protégé. Hier, on a distribué les équipes dans les quatre villes et les Remparts ont gagné à la loterie. Écoute un peu, l'Automax à côté de ça, c'est rien. Les Remparts iront jouer à Val-d'Or pour la séquence du 19 au 25 mars prochain. C'est juste avant l'autre bout du monde, c'est la sortie avant.
les Remparts et leur descripteur vont aller passer une semaine à Val-d'Or.
Il doit prendre son véhicule, qui ne peut voyager avec l'équipe.
Ah oui, ben, il doit prendre son véhicule pour se rendre jusqu'à Val-d'Or.
On va mettre du gaz.
Passer une semaine.
Le parc de la Vérendrye. As-tu déjà traversé le parc de la Vérendrye en voiture?
Non.
C'est pas grave.
ça doit être beau, ça.
C'est 3 heures d'arbre à gauche et d'arbre à droite.
3 heures d'arbre?
Oui. C'est un peu dangereux aussi comme route, là.
Oui?
Oui.
Parce que tu vois, le parc de la Laurentide.
Il n'y a pas de service, premièrement. Il me semble qu'il n'y a pas de service du tout, là. Ouais, le parc de la Laurentide.
C'est le fun, c'est magnifique.
Très, très facile depuis l'agrandissement de l'autoroute.
Mais parc de la Vérendrye, je connais moins celui-là.
C'est bon. Pas grave, Paul. Je te le dis, prends mon conseil. Oui. Puis,
laisse faire ça.
C'est ça.
Passe ailleurs.
Tiger n'a pas de souvenir de son accident. C'est ce qu'aurait dit une source près de Tiger hier. Évidemment, on peut croire qu'une commotion cérébrale est très possible dans les circonstances. Plusieurs tonneaux, oui. Il n'y a pas seulement la cheville et la jambe qui ont été endommagées. Donc, il n'y aurait pas de souvenir. Et Tiger aurait également dit qu'il ne veut pas que sa carrière prenne fin de cette façon-là. Donc ça peut être le petit bout encourageant pour la suite des choses, mais, et il y a un gros mais, là, hier on l'a transféré du centre de trauma où il était depuis quelques jours à un autre hôpital pour sa réhabilitation. Et oui, Tiger, dans sa tête, il veut pas que ça finisse comme ça. Moi, je suis pas surpris de l'entendre dire ça. Je pense que c'est un athlète assez compétitif et qui aime assez le golf pour ça. Maintenant, physiquement, est-ce qu'il va être capable? C'est quand même une blessure majeure qu'il a subie. Mentalement, il semble vouloir reprendre sa carrière. Sa limite, ça va être son physique. Puis son dos également, il venait d'être opéré au dos. Ça a dû faire des dommages, ça a fessé. On connaît pas l'étendue des dommages. Mais c'est là qu'on en est pour le tigre des bois.
Il faut que tu aies un mental d'acier. J'ai aucun doute sur le mental, la volonté. Le will.
Il a battu beaucoup de Tiger. de gens avec son mental seulement. Là.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je sais que c'est plate à dire parce qu'on aime croire que le mental, le mental toughness nous permet de se rendre n'importe où on veut. Là.
C'est vrai, mais à un moment donné, il y a une limite.
Il y a une limite pareille, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, je souhaite revoir Tiger Woods sur un terrain de golf. Enfin, imagines-tu?
Ouais.
Mais je sais pas combien de temps ça peut prendre. Là.
Déjà, quand tu as gagné le Masters, là, il y a 2 ans. Là,
c'était quelque chose.
C'était qualifié de miracle ou pas loin. Avec raison, il revient tellement loin.
Imagine les cotes d'écoute.
S'il revient de ça, là, ça va être... une autre coche de plus, absolument. Pour rester dans le monde du golf, Phil Mickelson aujourd'hui prend part à un tournoi senior. Il pourrait devenir le premier joueur de l'histoire de ce tour à gagner ses 3 premiers tournois. Il a gagné ses 2 premiers tournois et là, ça se passe à Tucson en Arizona. La série NASCAR est à Homestead en Floride pour la fin de semaine, mais il n'y a pas de série camionnette ce week-end. Donc, Xfinity demain et la NASCAR Cup dimanche. Le FC Montréal, Paul, a perdu son entraîneur-chef pour des raisons familiales. Thierry Henry a décidé de quitter. Est-ce que Laurent Simon pourrait prendre le poste? Parce qu'il s'est amené comme adjoint. On pourrait-tu y confier le poste?
Je pense pas qu'il ait été entraîneur-chef nulle part encore.
Donc,
il
vient juste qualifié.
Il n'y a pas beaucoup d'expérience, même comme adjoint. Il a pris sa retraite comme joueur l'an passé, à la fin de la saison.
Mais Zidane, il a recommencé. Zidane, il a arrêté de jouer, puis on dirait qu'il a coaché un petit peu après.
Mais Zidane puis Laurent Simon.
On n'est pas dans le même game.
C'est un peu comme Crosby puis Paul Byron.
Je comprends.
Crosby, me semble, s'il devenait coach tout après, il n'y a personne qui fait comme toi, tu vas aller commencer par le midget 3.
Je comprends ton
point. On aura envie de savoir ce qu'il a donné comme coach.
Oui.
Je sais pas, remarque que je te dis ça, mais...
Ouais. Puis je veux terminer avec M. Maurice pour la version sportive. Là, je vous ai parlé du Rouge et Or tantôt. Il était vraiment dans le groupe qui a lancé le Rouge et Or football au milieu des années 90. Les citadelles, des matchs auxquels tu as assisté, Paul, M. Maurice était le président des citadelles.
Pouf.
Et il avait son idole comme joueur, comme sportif, c'était Jean Béliveau. Je pense pas me tromper beaucoup, là. C'était Jean Béliveau. Il en avait fait le capitaine honoraire des citadelles. Il était là au début, là, Jean Béliveau, au début des citadelles. Ouais. Et c'était à la demande de M. Maurice.
J'ai le même souvenir que toi. Ouais. T'as raison.
Puis on lui avait remis un chandail.
Ambassadeur, gouverneur, quelque chose comme ça, là. Ouais, c'est
exactement.
Vrai. D'ailleurs, c'était dans les hauteurs du Colisée, cette bannière-là. T'as raison.
Elle est toujours là. Absolument. Et l'Océanique, bien sûr, bien c'est M. Maurice qui a amené l'Océanique à Rimouski. Et ça a eu de l'impact, bien sûr, dans le Bas-Saint-Laurent. Mais l'Océanique à Rimouski, c'est aussi ce qui a permis à la Ligue junior majeure du Québec de développer les Maritimes. Parce que pas d'Océanique à Rimouski, le lien est plus difficile à faire avec le Québec. Rimouski étant la ville la plus à l'est. Ça a permis ensuite à Halifax de s'amener dans la LHJMQ, Moncton, Bathurst, Cap-Breton, Île-du-Prince-Édouard, puis les Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. Il y a même eu une équipe à Terre-Neuve pendant quelques saisons, mais l'élément déclencheur, ce qui a permis à la LHJMQ, puis on en a beaucoup besoin des Maritimes là, dans la LHJMQ pour relever le calibre de jeu, puis également la valeur des franchises. C'est des bonnes villes, des bonnes franchises dans les Maritimes pour la LHJMQ. Ben, ce qui a permis à la LHJMQ de développer les Maritimes, c'est l'arrivée de l'Océanique de Rimouski dans la Ligue, l'équipe de toute une région. Monsieur Tanguy a été visionnaire. Toute sa vie, il a été visionnaire. Il a vu deux coups avant tout le monde. Ça lui a permis d'avoir du succès par après. Il l'a été encore là. Et l'Océanique a eu tellement de bons joueurs. Je me souviens que Éric Forêt, qui était maire de la ville de Rimouski, qui est maintenant sénateur, m'avait raconté que si M. Tanguy n'avait pas été là, Vincent Lecavalier ne serait pas venu avec l'Océanique parce que Vincent Lecavalier a joué 2 ans avec l'Océanique. Ça a été la première grande vedette de l'Océanique. Puis M. Tanguay avait, sauf erreur, amené la famille Lecavalier à Rimouski pour leur faire voir c'est ici que Vincent pourrait se développer. Puis il les a convaincus comme ça. Ensuite, Vincent s'est amené avec l'Océanique. Après Vincent, il y a eu Brad Richards. Avec Brad Richards, ils ont gagné la Coupe Memorial. Après Brad Richards et la Coupe Memorial, il y a eu Sidney Crosby. Donc, s'il n'y a pas de Vincent Lecavalier, l'Océanique n'a probablement pas le succès qu'il a présentement. Et c'est M. Maurice qui a convaincu la famille Lecavalier.
Dans mes lectures et mes recherches, hier, je suis tombé sur des images de la conquête de la Coupe Memorial de l'an 2000.
C'est probablement son plus beau moment sportif, hein, M. Maurice, ça.
Ben, écoute, je le dis, juste d'en parler, ça je pogne un peu le moton parce que c'est de voir M. Tanguay dans cette espèce de... C'est un monsieur qui était très calme, très posé. Hein?
Mais quand t'embarques dans le sport, t'es dans les émotions.
Ben, c'est ça. Puis il y avait des images, évidemment, parce que tu sais, l'équipe remporte, ils viennent de gagner, ils remportent la Coupe Memorial, il est dans le vestiaire avec les joueurs, il est sur la glace après, bon, tout ça. Fait que c'est sûr que là, t'es dans l'exaltation.
Oui.
Mais de voir M. Tanguay, tu sais, ça fait quand même 20 ans, là.
Ça fait 20 ans.
Puis dire que c'est le plus beau jour de sa vie avec la Coupe, c'est... J'avais envie de brailler, mon gars. Je regardais ça, je trouvais ça beau, là. Mmh. C'était... En tout cas, c'était vraiment, vraiment touchant.
Absolument. Ouais. Brad Richards a été son joueur préféré. Évidemment que Sidney Crosby n'est pas loin, là.
Ouais.
Son joueur préféré était Brad Richards avec l'Océanique. Il a gardé des liens avec lui très fort également. C'est un gars des Maritimes, Brad Richards. Puis en terminant, l'histoire de Michel Germain est celle qui... C'est l'histoire qui nous fait comprendre qui était M. Maurice encore un peu plus. Michel Germain, c'est le descripteur de l'Océanique.
Il y avait un
match ici au Colisée à Québec. Puis juste avant le match, quelques minutes avant le match, sauf erreur, il y a eu un accident de la route. Et dans cet accident-là, Michel a perdu sa fille, sa mère et sa femme.
Semble que c'est ça, mais au moins
trois membres de sa famille, très important. Et c'est M. Maurice qui s'est occupé de Michel. Michel, il dit, il raconte très, très souvent, M. Maurice a sauvé sa vie. Il lui a sauvé la vie après ces moments-là. Là, donc.
Hey boy.
Bon repos, M. Maurice.
Oui, puis évidemment, on a une pensée pour toute la famille, les proches de M. Maurice Tanguay. Évidemment, tout le monde est un peu en deuil, mais nos pensées accompagnent... les proches de la famille.
On l'attendait. Il y en a des gens là, on sait malade puis on sait que ça va arriver, mais quand ça arrive,
ça fait quelque chose
ça
pareil.
Ça pince pareil. Hein?
Ouais.
Oui.
Mais tu sais, il y a quelque chose quand même de de beau dans la tristesse, mais il y a quelque chose de beau dans le fait de pouvoir partir,
oui,
entouré de ses proches, dans le contexte qui est un contexte, oui, épouvantable, ouais, épouvantable depuis un an. Tu sais, à cause de la pandémie, mais de pouvoir partir, oui, paisible et entouré de ses proches, oui, ça a de l'air niaiseux, là, mais ça ne l'est pas du tout, parce non, que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. C'est pour ça que je dis une chance dans la tristesse, parce que oui, c'est triste, c'est profondément triste, mais... Il y a quand même quelque chose de beau dans le fait d'avoir la chance de partir avec ses proches.
Puis tout ce qu'il a fondé, tout ce que va lui survivre. Il va lui survivre très bien.
C'était son plus grand souhait.
Parce qu'il a bien préparé ça.
Il racontait à Bruno Savard en 2013, il disait « Après ma mort, je voudrais que les gens se souviennent de moi comme quelqu'un qui a toujours essayé d'aider les autres et je voudrais que la fondation survive. »
Un homme généreux. C'est un homme extrêmement généreux.
Pour l'instant, je pense que M. Maurice est parti en ayant accompli ce qui était ses plus grands souhaits,
oui,
qu'on se souvienne de lui comme un monsieur qui voulait aider les autres, ce qui est le cas,
oui,
et qu'effectivement la fondation non seulement lui survive, mais continue d'avancer.
Yes, sir.
6h58, on prend une pause, on revient, ça sera pas long.